Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Romilda Ferrotto.
Le débat sur le mariage pour tous monte en intensité en France et risque de fissurer la société. Et ce, alors que les questions sociales comme le chômage et le pouvoir d'achat qui tracassent les Français n'ont toujours pas de réponse. Nous en parlerons dans cette émission. Près de 150 millions de chrétiens sont discriminés dans le monde, physiquement menacés ou pourchassés. En tête du classement, la Corée du Nord, mais la persécution peut être aussi très sournoise. Benoît XVI est proche de l'humanité souffrante en quête de soulagement et d'espérance. Dans un message, le pape invite les chrétiens à accueillir avec amour et générosité toute vie humaine, surtout si elle est faible et malade. L'Église universelle solidaire des communautés chrétiennes du monde arabe, le cardinal Sandri est en Égypte, tandis qu'une délégation d'évêques d'Europe et d'Amérique du Nord visite la Terre Sainte. Un haut responsable de la curie romaine effectue une visite en Égypte. Le cardinal Leonardo Sandri, préfet de la Congrégation pour les Églises orientales, est arrivé sur place dimanche soir. Plusieurs rendez-vous importants figurent au programme de son séjour qui se poursuivra jusqu'au 11 janvier. Notamment une rencontre avec le nouveau patriarche copte orthodoxe Tawadros II, la célébration du centenaire de la Congrégation des religieuses égyptiennes du Sacré-Cœur, aujourd'hui présente également au Soudan et en Tunisie, et l'inauguration à Sharm el-Cheikh d'une église consacrée à Notre-Dame de la Paix. Xavier Sartre.
Cette visite intervient à un moment critique pour la nation égyptienne. Les récentes évolutions inquiètent les chrétiens, une situation que le cardinal Sandri n'a pas éludée. Lundi soir, au cours d'une messe à Alexandrie, il a évoqué les épreuves et les souffrances que connaissent les communautés chrétiennes en Égypte et dans les pays d'Orient. Les divisions intérieures et extérieures, le dialogue parfois difficile mais toujours à renouveler avec les institutions. Des défis, a-t-il dit, qui ne doivent pas freiner les aspirations chrétiennes à la paix et au salut. En cette période tourmentée pour la nation égyptienne, le cardinal Sandri a voulu citer un passage de l'exhortation apostolique post-synodale sur le Moyen-Orient pour réaffirmer avec force que les catholiques doivent jouir de la pleine citoyenneté dans cette région du monde et ne pas être considérés comme des citoyens ou des croyants de seconde zone. C'est en raison de Jésus qu'ils sont sensibles à la dignité de la personne humaine et à la liberté religieuse qui en découle. C'est par amour de Dieu et de l'humanité que les chrétiens ont construit des écoles, des hôpitaux et diverses institutions où tous sont accueillis sans discrimination.
Et une délégation d'évêques d'Europe et d'Amérique du Nord poursuit sa visite annuelle en Terre Sainte en signe de solidarité avec les communautés chrétiennes locales. Une partie de la délégation s'est rendue en Jordanie pour y rencontrer les réfugiés syriens mais aussi les communautés chrétiennes locales. Des communautés qui, selon l'évêque d'Amman, sont respectées. Elles jouissent d'une grande considération de la part de la majorité musulmane pour leur contribution dans les domaines de la assistance sociale et de l'éducation. Mais aujourd'hui, l'afflux de réfugiés risque de déstabiliser ce pays. Le territoire jordanien accueille des réfugiés palestiniens depuis 60 ans. Dans les années 70, sont arrivés les Libanais, puis depuis 12 ans, les Irakiens et maintenant les Syriens, souligne Mgr Maroun Laham. Or, la Jordanie est un pays pauvre dont les infrastructures sont insuffisantes et qui souffre toute l'année d'un problème de fond, le manque d'eau potable. Le vicaire pour la Jordanie du patriarche latin de Jérusalem tient par ailleurs à souligner que l'accueil et le partage en Jordanie ne sont pas des valeurs chrétiennes ou musulmanes, mais des valeurs arabes dont les Jordaniens sont fiers. Des Jordaniens qui redoutent la contagion des crises qui secouent les pays voisins, ils prient Dieu de préserver leur pays. L'ONG Portes Ouvertes a publié comme chaque année son index mondial 2013 des persécutions qui dresse un classement des 50 pays où les chrétiens sont le plus persécutés en raison de leur foi. Si la situation reste dramatique en Corée du Nord, en tête du classement pour la 11e année consécutive, suivie de l'Arabie Saoudite, de l'Afghanistan et de l'Irak, elle empire partout ailleurs, notamment en Afrique subsaharienne et au Moyen-Orient, où le printemps arabe s'est transformé en véritable hiver chrétien. La Chine, quant à elle, constitue la bonne surprise de ce classement. Michel Varton, directeur en France de l'ONG Portes Ouvertes, interrogé par Manuela à Fiji.
Ce qui est très frappant quand on regarde la liste de persécutions, l'index aujourd'hui, c'est qu'il y a 4 pays qui, dans le passé, n'étaient même pas sur la liste, et cette année, pour la première fois, figurent sur la liste. Et le premier pays, c'est le Mali, qui est 7e même sur la liste de persécution. Et ensuite, il y a le Kenya, le Niger et l'Ouganda. Il y a plusieurs facteurs qui mènent à cette augmentation de persécution. Il y a d'abord la présence de groupes djihadistes, tels que le groupe Al-Shabaab du côté Somali, Boko Haram au Nigeria, Al-Qaïda du Maghreb, qui provoquent la violence contre les églises et qui cherchent à installer des États islamiques qui ne laissent aucune place pour la présence d'une église. Donc ça, c'est un facteur important, plus, je dirais, une islamisation graduelle, surtout en Afrique occidentale, qui fait que l'Église se trouve de plus en plus isolée, victime de violences et de difficultés. Et donc le cas en figure, c'est évidemment le Mali, où la partie nord du pays est aujourd'hui sous un régime strict charia, où il n'y a pratiquement plus aucune église, plus chrétien, et toutes les églises ont été fermées.
Autre point important de cet index cette année, tout le monde s'en doutait plus ou moins déjà, mais on confirme bien que le printemps arabe s'est transformé en hiver chrétien.
Oui, là aussi, on voit pratiquement tous les pays qui montent sur notre liste, donc ça veut dire qu'il y a moins de liberté pour les chrétiens suite à ces renversements des dictatures et en fait davantage de persécutions. Donc la Syrie, par exemple, qui passe de 36e position à 11e position sur notre liste. La Libye qui passe de 21e ou 17e et la Tunisie de 35e ou 30e. Le résultat dans tous ces pays, c'est soit des régimes qui sont islamiques ou bien des groupes islamiques qui mettent pression sur les régimes. Et le résultat, donc, c'est moins de liberté et plus de persécution pour les églises.
Est-ce que malgré tout, cet index vous a réservé, entre guillemets, quelques bonnes surprises cette année ?
La Chine, c'est un petit peu la bonne nouvelle de notre liste. Et depuis maintenant quelques années, chaque année, on voit que la Chine baisse sur la liste de persécution. Et aujourd'hui, c'est 37e sur la liste, avec 48 points. Donc il y a, je pense, un changement d'attitude vis-à-vis de l'Église, certainement par rapport il y a une dizaine d'années. La Chine, qui connaît aujourd'hui des tensions sociales assez importantes dues à la croissance économique, et l'Église est vue comme un facteur de stabilité dans le pays, et acceptée beaucoup plus facilement, surtout dans les grandes villes. Et à part quelques minorités, donc des problèmes dans la partie nord du pays qui est islamique, et aussi chez les Tibétains, il y a aujourd'hui vraiment une situation qui s'améliore pour l'Église en Chine.
Autre particularité intéressante, ce sont les pays d'Asie centrale et d'Amérique du Sud où les chrétiens sont en butte à la corruption et de ce fait persécutés.
Oui, dans ces pays, tout se passe via la corruption et les chrétiens se trouvent donc une cible simplement parce qu'ils ne participent pas dans ce système qui est nécessaire pratiquement pour vivre. Tous ceux qui cherchent à monter une petite affaire ou avoir un commerce sont une cible de la corruption et les églises aussi, particulièrement en Asie centrale avec l'islam qui monte et des dictatures qui veulent tenir le pouvoir et qui voient l'église comme étant une influence occidentale et une force de liberté qui se soustrait au régime.
C'était Michel Varton, directeur en France de l'ONG Portes Ouvertes. Dimanche prochain, le 13 janvier, aura lieu en France la grande manifestation contre le mariage homosexuel. Les opposants à cette réforme ne se comptent pas uniquement parmi les catholiques, notamment lorsqu'il s'agit de la filiation. Ces derniers jours, la température est brusquement montée après les déclarations de Vincent Peillon, rappelant à l'ordre l'enseignement catholique sur ce dossier. Lors d'une conférence de presse ce mardi, le secrétaire général de l'enseignement catholique a répondu à Vincent Peillon. Éric Delabarre affirme qu'il n'a pas commis de faute ni même de maladresse en envoyant une lettre à ses chefs d'établissement. S'il devait aujourd'hui réécrire cette lettre, il n'en changerait pas une virgule. Tout en dénonçant un procès d'intention inacceptable en homophobie et en obscurantisme, Éric Delabarre appelle à l'apaisement. Un des proches conseillers du chef de l'État français a démenti qu'il y ait une volonté d'écarter ou de stigmatiser les catholiques. Reste que ces tensions sont bien réelles et les désaccords nombreux et profonds. Mariage pour tous, suicide assisté, recherche sur l'embryon, réquisition des bâtiments vides pour accueillir les sans-abri, des propos tenus par la ministre du Logement, Cécile Duflot. Du jamais vu depuis au moins un quart de siècle lorsque la gauche avait envisagé une réforme de l'enseignement privé. Sur ces dossiers, l'Église de France peut compter sur le soutien du pape. Je vous propose de réécouter un extrait de son discours au corps diplomatique lundi.
Malheureusement, surtout en Occident, on trouve beaucoup d'équivoques sur la signification des droits de l'homme et des devoirs qui leur sont liés. Les droits sont souvent confondus avec des manifestations exacerbées d'autonomie de la personne, qui devient autoréférentielle, les plus ouvertes à la rencontre avec Dieu et avec les autres, et se replie sur elle-même en ne cherchant à ne satisfaire que ses propres besoins. Pour être authentique, la défense des droits doit au contraire considérer l'homme dans son intégralité personnelle et communautaire.
Si les tensions sont évidentes entre le gouvernement de François Hollande et l'Église catholique de France, si les positions sur les questions éthiques et juridiques semblent irréconciliables, les points de vue de la France et du Saint-Siège en matière de politique internationale sont souvent convergents. La France et le Saint-Siège entretiennent des relations diplomatiques depuis 532 ans. Ils partagent des objectifs de paix, de justice et de défense des droits de l'homme. C'est ce que nous a expliqué Bruno Joubert. L'ambassadeur de France près le Saint-Siège était lundi dans la salle royale du Palais apostolique pour assister au traditionnel discours du pape au corps diplomatique accrédité près le Saint-Siège. Interrogé par Marie Duhamel, il revient sur les principaux thèmes abordés lundi par Benoît XVI.
Pour la France, qui est un pays traditionnellement doté d'un rôle important dans la situation internationale, en tant que notamment membre permanent du Conseil de sécurité, l'ensemble des propos du Saint-Père sur la paix ont une résonance particulière. Que ce soit les propos que le Saint-Père a tenus sur la gravité de la crise en Syrie, que ce soit ce qu'il a pu dire sur le conflit israélo-palestinien, la situation dans cette crise très ancienne, ou bien aussi ce qu'il a dit sur les différentes crises et les angoisses qu'elles peuvent faire surgir en Afrique subsaharienne. Donc sur chacun de ces points, il y a, je trouve, une très grande concordance entre les positions françaises et les positions du Saint-Siège. Et je voudrais simplement citer peut-être, pour faire bref, la Syrie, où la France, comme ses partenaires internationaux, soutient les efforts pour dégager une solution politique à cette situation tragique. Et le ministre français, M. Fabius, a en particulier eu des contacts fréquents avec le représentant spécial conjoint des Nations Unies et de la Ligue arabe, M. Brahimi, qui est chargé d'essayer de dégager une solution. Donc voilà un exemple très concret où la France répond directement aux préoccupations du Saint-Père, aussi bien d'ailleurs que par le soutien humanitaire que nous apportons, point sur lequel le Saint-Père a mis l'accent dans son discours.
Il a été question aussi dans ce discours de la crise économique, de l'écart qui se creuse entre les riches et les pauvres. Le pape a estimé qu'il était maintenant urgent de former les dirigeants à un esprit de responsabilité. Est-ce un rappel à l'ordre? Est-ce une urgence justifiée?
Je crois que le Saint-Père a raison de rappeler que les écarts de richesse, les différences de croissance sont source de tensions et ne sont pas facteurs de paix, au contraire. Mais je crois qu'en disant cela, il a très exactement exprimé ce qui est aussi la préoccupation des autorités françaises et du président de la République, qui, chaque fois qu'il en a l'occasion, rappelle à quel point ces dimensions sont importantes, la justice sociale, la justice fiscale, la croissance, l'emploi, qui est pour le gouvernement français une priorité. Tout ça sont des éléments qui concourent à cette préoccupation de ne pas laisser les écarts se créer. C'est très exactement aussi le sens de l'action que la France conduit en matière de développement des pays plus pauvres. Donc je crois que là-dessus, il y a vraiment une convergence d'analyse. Et je me rappelle une phrase que le président de la République a tenue il y a quelques jours au moment du Conseil européen à Bruxelles en décembre. Il a dit « la finance devrait être maîtrisée, elle le sera ». Et je crois que le Saint-Père aurait peut-être pu dire la même chose.
Le pape s'est dit attaché à la cohésion des États membres de l'Union européenne, cohésion mise à mal par la crise économique. Est-ce que la France est-elle aussi soucieuse de cette union? Comment est-ce qu'elle peut répondre à l'appel du pape à plus de solidarité?
Les Européens en général, les Français probablement comme tous les Européens, ont une réelle inquiétude devant l'ampleur de la crise qui frappe l'Union européenne. C'est pour ça que la France et le président de la République et les autorités françaises ont fait du redressement, de la croissance et de la solidarité trois mots clés de leur action au sein de l'Europe et avec d'autres. Ce dernier Conseil européen de décembre que je mentionnais à l'instant a vu par exemple l'émergence d'un accord sur la recapitalisation des banques et la supervision bancaire.
Pour Benoît XVI, la paix sociale passe aussi par le respect de la religion, de l'objection de conscience, par la protection des droits fondamentaux des hommes, évoquant notamment l'euthanasie. Cette position du Vatican n'est pas nouvelle. Quelle perception en ont les autorités françaises?
Je crois que les autorités françaises ne sont pas troublés par le message du Saint-Père, dès lors que sur des questions comme le respect des droits de l'homme, la citoyenneté, qui est un sujet que préoccupation commune, par exemple, dans le cadre des printemps arabes. Tout ce qui a trait à la responsabilité individuelle du citoyen, de la démocratie, est un point commun entre nous. Alors ensuite, évidemment, il y a un certain nombre de débats de société sur lesquels le Saint-Père a des positions qui sont celles de l'Église. La société française est multiple, elle est complexe, elle est traversée d'un certain nombre actuellement de débats, on le voit bien. La fin de vie en fait partie. C'est une préoccupation profonde du citoyen français que de savoir comment il affrontera ce moment inévitable, comment ses proches approchent ce moment inévitable. Bon, les autorités françaises ont demandé au professeur Sicard de faire un rapport. Ce rapport est actuellement a été déposé. Bon, il y a donc toute une série de réflexions, mais je crois qu'il faut que chaque pays puisse, dans le cadre de ses dispositions démocratiques et dans le cadre de son propre débat, fixer sa route. Alors ça peut donner lieu effectivement à des divergences d'appréciation, mais je crois que sur le fond, la volonté est la même, c'est de développer des sociétés qui soient à la fois des sociétés humaines et puis des sociétés justes et des sociétés équilibrées.
Ambassadeur de France près le Saint-Siège, Bruno Joubert. Je vous le disais en titre, Benoît XVI est proche des personnes éprouvées par la maladie et par la souffrance. Elles ne sont ni abandonnées ni inutiles. Il le redit dans un message rendu public ce mardi à l'approche de la 21e journée mondiale du malade. Cette journée sera célébrée de façon solennelle le 11 février prochain au sanctuaire marial d'Altötting en Bavière. Le pape exhorte les chrétiens à accorder une attention concrète à ceux qui sont blessés dans leur corps et dans leur esprit et qui demandent de l'aide, y compris les inconnus et ceux qui n'ont pas de ressources. L'année de la foi constitue une occasion propice pour intensifier la diaconie de la charité dans les communautés ecclésiales et pour aider les personnes malades à valoriser la souffrance sur le plan humain et spirituel. Le compte-rendu de Thomas Chabol.
Dans son message, Benoît XVI a voulu témoigner de sa proximité avec les malades qui, dans les lieux d'assistance et de soins ou aussi à la maison, vivent un moment difficile d'épreuve à cause de l'infirmité et de la souffrance. Le pape interpelle les fidèles chrétiens et les personnes de bonne volonté à apporter leur soutien aux autres, en particulier à ceux qui ont besoin de soins. Il cite l'exemple du bon samaritain qui puise dans l'amour infini de Dieu la force de vivre quotidiennement une attention concrète envers celui qui est blessé dans son corps et dans son esprit, celui qui demande de l'aide même s'il est inconnu et privé de ressources. Le pape n'oublie pas de rappeler que ce modèle vaut pour tous les agents de la pastorale et de la santé, mais aussi pour le malade lui-même qui peut vivre la condition qui est la sienne dans une perspective de foi. Chacun est appelé à être un bon samaritain pour l'autre, pour celui qui se tient à côté de nous. Ainsi, Benoît XVI rappelle certaines figures de l'Église qui ont aidé les personnes malades à valoriser leur souffrance. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face, le vénérable Luigi Novarese, Raoul Folraud, la bienheureuse Thérèse de Calcutta, sans oublier la Vierge Marie qui jamais ne perdit l'espérance dans la victoire de Dieu sur le mal, sur la souffrance et sur la mort.
À propos de la polémique sur l'investiture du président vénézuélien Hugo Chavez pour un nouveau mandat, l'Église vénézuélienne a jugé moralement inacceptable d'enfreindre la Constitution pour réaliser un objectif politique. Cette cérémonie est prévue jeudi. Réélu le 7 octobre, le président Chavez est hospitalisé depuis le 11 décembre à Cuba, où il a subi une 4e opération pour un cancer et sa présence à Caracas jeudi est très improbable. Le président de la conférence épiscopale a affirmé que ce qui était en jeu, c'était le bien commun du pays et la défense de l'éthique. En Sierra Leone, l'ordination épiscopale de Mgr Henri Aruna s'est déroulée samedi en présence de plusieurs prélats d'Afrique et du Vatican, mais sans liesse populaire, note l'hebdomadaire français La Vie. Nommé depuis un an par Benoît XVI, le nouvel évêque de Makeni peine à se faire accepter. Âgé de 49 ans, le nouvel évêque est issu de l'Université urbanienne de Rome et président national des œuvres pontificales missionnaires. Mais il appartient à l'ethnie Mende. Lors de l'annonce de sa nomination, des émeutes avaient éclaté. Les habitants du nord de ce pays, à l'équilibre fragile, miné par 11 ans de guerre civile, n'ont pas accepté la nomination de cet évêque du sud. L'ordination s'est donc déroulée dans une cathédrale de Freetown, pleine de gens du sud et de prélats, mais où l'absence de délégués du nord était criante. Dans sa première allocution en tant qu'évêque, Mgr Aruna a confié être passé par des temps difficiles, des nuits sans sommeil, des moments de frustration, de stress et de dépression. Il a dit avoir reçu des appels et des lettres peu chrétiens. Mais il a également dit qu'il n'avait de rancune envers personne. La gouvernance du diocèse de Makeni, conclut l'hebdomadaire La Vie, s'annonce difficile. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivie. N'oubliez pas que vous pouvez également nous retrouver sur Internet et sur Facebook.